La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique.
On est en direct du Fitzroy, très heureux d'être là, où la course vient tout juste de se terminer. Une domination complète et totale de Lando Norris. Alors, bienvenue dans cet épisode tout mexicain de...
L'épingle à Mexico, Mexico.
Très fort, Jean-Max.
Merci.
Tu es heureux?
C'est parfait, hein?
Tu peux l'enlever maintenant parce qu'on dirait que tu parles avec un bol de toilette dans le visage. C'est exactement ça. Ah, tu es bien plus beau avec ta casquette Gilles Villeneuve maintenant. Merci. Et vous reconnaissez sur les caméras notre ami François Tremblay, photographe, comment je peux dire, voyageur et aussi propriétaire de Dirty Devil Vodka. Comment ça va?
Ça va très bien, toi-même.
Super bien. Merci d'être là avec nous autres. On a regardé la course ensemble. Les gars, je me suis écarté le temps d'un Grand Prix à apprendre à vouloir que Max gagne le championnat. Mais cette époque est maintenant... terminé.
Ah oui, ça n'a pas duré longtemps.
Non, ça a duré 3 tours. Il a recommencé. Ça allait bien, là. Tu sais, c'était comme, hey, Max, ça va bien. Il remporte des courses, il est fair. Et là, on a revu le Max qui est prêt en milieu de peloton aujourd'hui. Et que ça...
Ben, c'est sûr que quand il attaque ton meilleur ami, Lewis Hamilton, Greg est moins heureux.
Et là, je vous entends, là. Parce que là, François, comme toi, c'est un fan de Max.
Oh, yes! Hey, on s'en sort pas, mon Greg, hein?
Mais là, je vous entends, vous autres, mes vlimeux, là, et ceux qui nous écoutent également. Si tu vois pas le gap, puis que tu y vas pas, t'es plus un pilote de course. Il n'y en avait pas de gap! Quand tu rentres dedans, puis tu le tasses, il n'y en a pas de gap!
C'était legit. Moi, je trouve que c'était très osé.
Ben, selon la FIA... C'était legit parce qu'il n'y a pas eu de pénalité.
C'est incident de course.
Et d'ailleurs, ça a l'air qu'au Mexique, tous les pilotes peuvent sortir de piste, il n'y a pas de problème, faire ce qu'ils veulent, mais il y en a juste un qui tire le numéro gagnant pour avoir Lewis. Une pénalité de 10 secondes. Ben, j'ai quasiment le goût de laisser tomber mon micro.
Ben, c'est parce que Lewis a voulu dépasser Max. Il y avait peu de place, barré les roues et donc est allé dans le gazon. Et au lieu de reprendre le petit chemin asphalté,
exact.
Comme il le devait, il a coupé directement. Fait que c'est pour ça qu'ils ont appliqué la loi qui est 10 secondes de pénalité. Ça a fait très mal, mais Lewis qui a eu une vraiment une bonne course ensuite, puis a réussi à aller chercher des bons points, tout comme évidemment Leclerc, pour la lutte contre Mercedes dans le championnat.
D'ailleurs, on attend toujours... c'est la première fois qu'on enregistre un épisode avec pas de scoring, avec pas de...
voyons. De stats, de chiffres, de...
Updaté, mettons, à jour.
Oui. Mais... Le championnat?
Oui.
Ils l'ont pas fait encore?
Pas encore. ESPN est tout le temps avant la Formule 1. Ouais. Et là, je suis sur le site d'ESPN à faire un petit refresh. Ferrari qui aurait repris la deuxième place devant Mercedes maintenant avec les deux pilotes qui sont bien positionnés. Ouais. Et tu peux continuer.
Donc, beaucoup des bons points pour Ferrari. Puis là, on a eu une petite bataille Russell-Antonelli. Russell voulait passer, a vraiment insisté pour que Antonelli lui cède la place. J'ai rarement vu George aussi vocal, même s'il l'est quand même souvent. Là, il n'arrêtait pas de dire, écoutez les gars, je viens de vous le dire, là, laissez-moi passer.
Ça a été long avec Mercedes de le loquer.
Oui, j'ai bien plus de rythme, puis au pire, j'y redonne la place, mais let's go, on est en train de ruiner nos deux courses. Uh-huh. Ils ont obtempéré, mais ça a été un peu long, comme tu dis, François.
Oui.
Il aurait pu le faire avant, mais ça n'a rien changé vraiment. Donc, a redonné sa position. Mais reste que Ferrari, outre la pénalité à Lewis, là, c'est des gros points. Uh-huh. Était performant, c'était encourageant quand même. Lewis aurait pu avoir un podium là, s'il n'y avait pas de pénalité.
Mais revenons sur la pénalité justement, là. Les gars. Non, mais pour vrai.
On va y revenir, là, gars.
La Formule 1 a fait une publication sur les médias sociaux pendant la course pour dire que Lewis avait une pénalité de 10 secondes. Là. Ouais. Et habituellement, t'as toujours 50-50. T'as le Lewis Army d'un côté qui disent qu'est-ce qui se passe, et là, t'as les fans de Max qui, eux autres, de leur bord, vont... Là, c'était 100% des commentaires qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est ça? »
Mais je suis pas d'accord. C'est pas une conspiration. Il fallait qu'ils reprennent le chemin asphalté. Puis l'autre d'après...
Il a barré les roues, il est arrivé pour revenir, ouais. Il est rendu beaucoup trop loin, il est sorti, alors que tous les autres pilotes ont pris les chemins d'évitement, sont sortis.
Ouais, mais ils ont suivi la piste.
Russell est sorti. Russell, Verstappen...
Mais ils ont suivi la piste quand même. Lui, il a juste coupé.
Ouais.
Clairement, c'est ça, là. Je m'excuse, Greg.
Mais tu pouvais pas suivre la piste où est-ce qu'il était?
Mais il y avait le petit chemin, là. Le petit chemin asphalté... prévu à cet effet, d'ailleurs.
Puis c'est Lewis... Il a décidé de couper. Il a commencé.
10 secondes?
10 secondes, c'est beaucoup. 10 ouais. secondes, c'est beaucoup.
Ouais, mais dans le livre, les gars, c'est sûrement écrit, quand tu fais ça, c'est 10 points. Il se pose pas de questions, là.
Ouais, ça change souvent, ça.
Ouais, le livre est à géométrie variable.
L'intention, tu sais, le fait que tu aies commencé sur ce genre de piste d'avertissement-là, puis tu as décidé de couper volontairement, c'est là que c'est l'intention qui a coûté le 10. Je pense que si c'était un accident, ça serait pas pareil, mais là, c'est ça qui s'est passé.
Là, il a pris la petite route, puis là, il a dit non. Puis il a vraiment coupé.
Mm-hmm.
Mais je répète.
Pour ce qui est de Max, il a été super agressif, là. Il s'est fait tasser au départ. Il a pas aimé ça. Il a fait un Max de lui-même. Je vais commencer à être une boule de bowling, puis let's go. Par contre, son dépassement contre Lewis, c'était ultra osé, mais. C'était son droit de le faire parce que ses roues étaient bien positionnées. Ils se sont touchés, mais ça, c'est race incident, là. C'est plate. Je m'excuse.
Qu'en penses-tu, François?
Ben, il a comme repris sa place. Il a pas fait un dépassement. Tu sais, il est sorti, mais il est revenu à sa place.
Lewis, ça?
Non,
mais... Max? Non, mais Max, quand il est sorti au début, ouais, c'est pas trop clair, ouais, là, parce qu'on n'a pas le temps de revoir l'incident.
Il a jugé clairement qu'il s'est fait quand même, parce que là, au départ, Lewis essaie d'aller à gauche pour passer Norris ou essayer. En allant un peu à gauche, Charles, il est squeezé, va à gauche. Max était déjà là, donc Max se fait tasser à gauche. C'est sûr que c'est un facteur atténuant, c'est sûr.
Facteur atténuant, hein? Et que vous aimez ça, vous autres.
Ben oui, mais...
Et que vous aimez ça, vous autres.
Qu'est-ce qui s'est passé, là?
Sinon, Oscar Piastri. Il y a eu quand même des belles courses de plusieurs pilotes, là.
Ouais.
Des fameuses Recovery Drive. On a été capable de ramener ça.
Bearman
a été... c'est pas une recovery, ça a été une surprise complète. Là. Lui, il a profité de tout ce chaos-là qui est arrivé au début pour se glisser, puis il a été très, très bon.
Cinq places gagnées, hein?
Il a conservé sa place, tu sais.
Exact.
Il arrive souvent, des fois, qu'une petite écurie se retrouve en avant, mais pas longtemps, puis il se fait ramasser.
Il était un métronome, là. Il roulait toujours les mêmes temps. Par contre, Oscar l'aurait mangé si ça n'avait pas été. Puis au même titre que Charles Leclerc aussi, les deux, ça nous a privé, là, cette fameuse voiture de sécurité virtuelle nous a privé de deux luttes en piste qui auraient été incroyables pour terminer la course. Là. Ça, absolument, c'est vraiment dommage.
Absolument, absolument. Ils ont fait ça par précaution. Là, j'imagine qu'il nous manque des infos, mais... il n'y avait pas besoin. Il n'y avait sûrement pas besoin. Puis on se prive de Piastri qui pourchasse Bearman. Il reste un tour et demi. Et Max qui a gagné quoi? 12 secondes sur Charles avec ses gommes tendres. Et arrive à un tour et demi. Moi, je pense qu'il l'aurait. Il l'aurait passé probablement. Charles a été sauvé.
Charles aurait été très bien défendu, là, mais il était quand même sauvé. Là, c'est
mais je suis pas sûr si Max aurait eu le temps quand même. Tu sais, on a vu Piastri coincé derrière Tsunoda tellement longtemps, puis on le sait que Tsunoda, il n'y a pas trop de rythme.
Mais là, d'ailleurs, Max était très, très près de Charles en fin de course. Puis là, tu sais, peut-être que ça va arriver après la course ou quoi que ce soit. Là. Mais sur le drapeau jaune, Max n'a pas ralenti, là.
Ben, c'est effectivement ce qu'ils ont dit, puis pourtant...
Mais c'était le drapeau jaune, il était dans la section bien plus loin que où
parce
il était.
Il était à comme 1,4 secondes, puis dans la même seconde, tout le monde est resté surpris. Il dit, voyons donc, il a donc bien gagné du temps.
C'est Charles, je pense, qui a trop freiné. Mais là, on est vraiment juste après la course. Là. C'est difficile à voir. On va le savoir demain.
Là, puis là, on s'excuse à nos auditeurs. On enregistre ça en direct comme ça. Donc, il manque certains détails. Dimanche, puis comme vous savez, des fois, les pénalités peuvent arriver par la suite également.
Sauf que...
Un autre... voilà, c'est sorti officiellement. Là. Mais un autre, Williams, qui vient se mêler des fins de course. Encore une fois, n'est-ce pas? On se rappelle d'Abu Dhabi 2021 et on se rappelle de Carlos Sainz aujourd'hui. Ouais. C'est
Abu Dhabi. Ah,
Carlos Sainz qui n'a pas eu une grosse fin de semaine, hein, en passant.
Mais c'est parce qu'il y a eu un 5 secondes de pénalité pour avoir entré dans Antonelli la semaine passée. Mais il s'était quand même qualifié 7-8e.
5 places, tu veux dire?
5
places, oui.
Excusez-moi.
5 places.
Donc, 12e, mais il s'est qualifié 7e. Il faut lui donner ça, vraiment, là. On n'a pas le choix.
Dans la course, je veux dire, là, parce que là, il a pas ralenti dans les puits.
Oui, il y a eu un problème.
Il y a eu un problème de...
C'est un problème?
Oui, d'odomètre ou je sais pas trop.
Odomètre.
C'est l'affaire même, là. C'est l'affaire qu'il y a à vitesse, là. C'est ça.
C'est bon, ça. C'est exactement ça.
Fait que tu sais, c'est comme deux trucs qui sont pas de sa faute ce week-end. J'y donne le bénéfice du doute. Et en partant 12e, plus tu pars loin, plus tu es...
Tu mets à risque de situations épineuses.
Oui. Exact.
N'est-ce pas?
Sainz, c'était le même cette saison. Puis, il est malchanceux ou il finit bien?
C'est vrai.
Puis Albon, c'est plein de la stratégie. Il dit, c'est possiblement, il l'a dit, la pire stratégie du monde entier. Ever, guys. Il était pas satisfait.
Les gars, c'est soit tout ou pas en tout. Hein. Surtout chez Williams, ouais. Là, on les sait très sanguins, les pilotes, quand ils s'adressent à leurs ingénieurs. Donc ça, c'est assez comique.
Nous sommes, Williams, actuellement, d'avoir peut-être dépassé le cap de dépenses l'an passé.
Oui, Williams.
Et Aston Martin, non?
Non, c'est pas Aston Martin, c'est McLaren.
Ooh.
La deuxième équipe, ce serait McLaren.
Ouh! McLaren! Tu dis rien, Greg, il me semble.
J'ai hâte de voir.
Red Bull, là, il n'y a pas longtemps, d'avoir des passes droits.
Mais ils vont s'en sortir. Comme Red Bull, c'est pour ça, tu veux.
Ça dépend toujours du montant, ça dépend à cause de quoi. Red Bull avait dit qu'il avait mal jugé les dépenses.
C'était des...
Le buffet, les traiteurs de l'équipe.
Ouais. Les traiteurs de l'équipe qui ont dépassé le budget.
C'est quand même, hein? Ouais, il y avait trop de petits sandwichs pas de croûte.
Ça doit être facile. Ça doit être...
On a sorti du homard.
C'est pas facile à vérifier tout ça, hein?
Non, gobelge ou crabe, on va y aller en crabe.
Des fiscalistes qui sont alignés là-dessus, toi, pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe.
Red Bull, l'usine au complet, c'est pour l'équipe de la F1. Tu sais, j'ai Ferrari, là. T'as la partie F1, t'as la partie voiture de route.
Ouais.
Tu sais, tu pourrais avoir des ingénieurs dans la voiture de route qui travaillent sur Ferrari de course, ça paraît pas.
Tranquille.
Tu sais, Mercedes, la même chose, tu sais.
Ouais, c'est vrai. C'est absolument vrai.
Mais techniquement, il n'y aurait pas le droit.
Mais non.
Techniquement.
En F1, là, celui qui n'essaye pas de tricher, là.
Il n'essaye pas assez fort.
Exact.
Ça, c'est certain. Ça fait. On disait qu'il y avait des fiscalistes pour régler les trucs financiers. T'en as qui, eux autres, sont là pour essayer de trouver des failles dans les règles.
Tout le temps.
Absolument.
On se rappelle de Brown, on se rappelle de bien d'autres situations comme ça qui sont arrivées. Crédit à Lando Norris, les gars.
Mm-hmm. Oui, vraiment.
Avez-vous vu le changement qu'il a fait en fin de semaine?
Non.
Il a décidé d'enlever tout le temps sur son volant. Donc, il n'a pas le temps de référence, il n'a pas où est-ce qu'il est placé, il se focus 100% sur son pilotage. Puis depuis ce temps-là, il performe mieux.
Oui. Écoute, il a été vraiment solide, hein? Il faut le dire, il a eu le meilleur.
Les gars, imaginez une Formule 1 sans Halo. Imaginez Montréal sans Grand Prix. Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique. Parce que Surfshark est là. Si vous êtes des voyageurs comme Jean-Max qui revient d'Italie, et d'ailleurs, je vois qu'il a pris quelques livres.
Ciao!
Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières. Bloquez les pubs agaçantes, les trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans aucune limite. Un peu comme Max Verstappen. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé.
de 30 jours. Surfshark VPN, c'est la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Et nous autres, là, on a un code. Si vous voulez nous encourager, allez avec Surfshark et rentrez le code PODF1. P-O-D-F-1. Faites le paiement et vous obtenez 4 mois gratuits. 4!
Pas down!
4 mois! Merci à Surfshark d'être un commanditaire et un partenaire important.
Tour, c'est un tour d'anthologie pour lui en Q3.
C'est incroyable.
Oscar, en contrepartie, a eu un problème de moteur, je pense. Là, donc, il n'a peut-être pas pu faire un premier bon tour en Q3. Mais bref, Lando a été impérial. Bon départ. Il y avait de l'air libre devant lui tout le long. La McLaren. Écoute, la piste était à 52 degrés sur le tarmac.
Ouais.
Et McLaren gère tellement bien les pneus, le refroidissement des étriers, des pneus, de tout
ça. La fameuse bouteille d'eau de Zach Brown, non?
Et ça a paru là. Puis ça a paru aussi pour Piastri, qui, malgré une mauvaise qualif, a perdu 2 positions au départ, mais il a juste pas lâché, puis il a rattrapé.
C'est plus le même Piastri de début de saison.
Non, hein? Non.
C'est de la pression sur lui, non?
Ah oui, oui.
Est-ce que c'est la pression ou il est frustré?
Les deux.
C'est parce que là, quand on regarde le championnat des pilotes, Norris est à 357, Piastri 356 et Max est derrière.
Du bonbon.
À 321. Donc là, Max, 36 points derrière maintenant. Ça va prendre quasiment un miracle. Là, quoi. Peut-être que les deux
McLaren... Puis on s'entend que McLaren ne choisira pas un des deux pilotes maintenant. Là.
Tu peux pas.
Là, tu peux plus. Là.
Ben
tu peux plus.
C'est ça.
Mais, tu sais, Lando va avoir eu ce qu'il voulait. Il a très bien performé.
Oui.
Mais en même temps, tu sais...
Le 3 points de Monza?
Le fameux 3 points de sortir ça. Ah,
c'est...
T'en penses quoi, François, toi? Mais...
Ça, c'est tellement facile à essayer de revoir un championnat. Ouais. Tu l'as perdu à telle place, t'as perdu... Non, c'est comme au hockey. T'as une défaite... Si on n'avait pas perdu au mois de novembre, on aurait peut-être pu être meilleur. Regarde, c'est le sport.
Mais là, c'est une claire décision.
C'est
le fun
avec le sport. C'est qu'on peut refaire tout ça, mais c'est des humains, c'est...
Je suis d'accord avec toi.
Et avez-vous vu dans la
mais semaine... c'est une claire décision. Tu sais, c'est un peu comme la décision de Tortorella de retirer son gardien alors qu'il aurait... Tu sais, tu comprends? C'était vraiment cette décision-là de dire, OK, redonne la position à Lando parce qu'il y a un arrêt lent. Puis là, ça a fait rire tout le monde. Là, ça pourrait coûter le championnat des pilotes.
Ah, ben là, ça dépend. Est-ce que c'est vraiment une politique interne ou non? Ça, c'est autre chose. Tu sais, comme dans le temps de Prost, dans le Prost Sénat, quand il disait le premier qui arrive, qui est devant au premier virage.
Il n'interférait pas, là.
C'est ça.
Zéro. Puis là, ils ont trop interféré, selon moi.
Oui, c'est ça.
Et avez-vous vu cette semaine dans les entrevues de semaine, là, que là, et la semaine d'avant, Piastri a dit, ouais, ben tu sais, suite à la manœuvre osée de Norris... qui a accroché Max et ensuite Piastri à Bakou? C'est quoi, c'est Oudon?
Je pense que c'était Bakou, oui.
Il y a eu des répercussions. Mm-hmm. On dirait une garderie, man. Mm-hmm. Alors, il y a eu des repercussions sur Lando. Mm-hmm. Parce que, tu sais, c'est
les
ça.
Les petits garages, je pense qu'il n'y avait pas la priorité.
Puis là, cette semaine... Là, les médias s'en mêlent et ils disent « Bon, mais ben là, finalement, les répercussions, ça a été annulé, là. » Parce que là, ça a été Piastri qui a fait une erreur à Austin.
Exact.
Hey, c'est une garderie. Fait que là, finalement, on revient à zéro. Il n'y a plus de répercussions. Oui, c'est ça, exactement. Hein. On a parlé dans l'équipe. Pis, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est de l'enfantillage.
Oui, mais malheureusement, tout est différent aujourd'hui. Tu sais, si on se rapporte à il y a 20, 25, 30 ans, c'est différent aujourd'hui, mais la société a changé aussi.
C'est vrai. Donc, c'est vrai. C'est l'évolution.
Tout est analysé tellement plus, tu sais, puis c'est complètement différent.
Puis l'intention de McLaren, c'est justement, ils se rendent pas dedans puis qu'il n'y ait pas de zizanie hors piste. Donc, l'intention est bonne.
Oui.
C'est juste que tu marches sur des œufs tout le temps.
Tu essaies de toujours être le plus correct possible, mais tu sais, en sport...
Et si Lando gagne de 2 points, là?
Oui.
Imagine.
Non, oui.
Ça revient à Monza.
Si Max gagne.
Oh, mon Dieu. Si Max gagne, écoute...
Tu sais, ça rappelle McLaren.
Ouais, là, ça va être dur. Là. Ça va prendre que les deux McLaren se rendent dedans pour que Max puisse revenir dans cette course-là. Là, parce que là,
ça peut arriver.
Oui.
Ben oui.
Oui.
Il reste 4 courses, 2 sprints.
Parce que la pression est vraiment sur les deux McLaren.
Oui,
Max,
oui.
Il n'y a rien à perdre.
Exact.
Il n'y a rien à perdre.
Non, puis Max, qui n'a rien à perdre, ça fait peur, comme on dit. Hein.
Oui, exactement. Tu veux pas que Max ait rien à perdre.
Non, ben, on a vu ça d'ailleurs aujourd'hui.
Ouais,
il est arrivé et il s'est dit il voulait chanter un succès de Miley Cyrus. I came here like a wrecking ball. C'est un peu ce qui est arrivé. On a retrouvé le bon vieux Max. Là,
il joue sur les limites. Puis honnêtement, il fait bien parce que. Puis il a eu tort dans le passé. Je dois l'admettre. Là. Mais si tu fais pas ça en F1, man, honnêtement, arrête. Arrête de faire de la course.
Mm-hmm.
Fais autre chose. Uh-huh. Il y avait une ouverture, il l'a pris. Puis dans la Formule 1 d'aujourd'hui, si tu prends pas ton occasion de dépasser quand tu l'as,
si t'es trop gentil, tu finiras pas.
La fenêtre se referme, puis t'es pris dans l'air vicié des autres voitures.
Uh-huh. En plus.
Puis c'est un circuit qui est pas si propice que ça au dépassement. Uh-huh. Les voitures à effet de sol, on sait ce que ça fait depuis le début de l'année. La position en piste fait foi de tout. Fait que voilà.
C'est beau t'entendre parler de Max.
Au grand désarroi de Greg, mais Max a été très osé, là. Je te le donne. Il a joué avec les limites, mais il y avait suffisamment de zones grises pour qu'ils se disent on ne peut pas te donner une pénalité. Il s'est fait tasser.
Exact.
Il est revenu, il a redonné la place.
C'est pas lui qui est agressé au départ, il s'est fait tasser.
Non, mais ça, c'était correct. C'est l'autre manœuvre où est-ce qu'il est rentré dans le coin alors qu'il y avait déjà une voiture qui est là, ça a créé un contact.
Oui.
Et ça,
je comprends, mais on a vu Leclerc faire ça, on a vu plein de monde faire ça.
Ah oui, t'as vu d'autres pilotes faire ça.
Dans d'autres
courses. J'ai hâte que tu montes exactement
les mêmes
moments, toi, que t'as vu quelqu'un rentrer le nez dans le virage.
Il cogne les deux roues avant. Ben oui, Greg, on l'a vu, on l'a fait, là.
Hugo, tu montes ça, Jean-Max.
Hugo, il dit oui. Bon, merci.
Non, Hugo, il dit oui pour te faire plaisir.
Non, il sait. He knows.
C'est la manœuvre signée MV33, là.
Est-ce que je dois te rappeler Monza 2021? Est-ce que je dois te rappeler Silverstone 2021? Le nez qui rentre tout le temps, là, on l'a vu de maintes et maintes fois. Bahrain 2022, Leclerc Max au début.
C'est la course?
Virage numéro 1. Ça a toujours été ça.
Ah, Greg, il faut que tu
aussi
dises oui.
Aussi agressif que ça.
Aussi agressif que ça. Ben oui, mais là, c'était deux accidents en 2021, Monza et Silverstone.
Ben, c'est ça que je veux dire. Quand ça s'en vient dans un accident ou dans un contact, ouais, ça n'a pas rapport. Là.
Mais non, mais tu joues sa limite. Ça a toujours été cette limite-là. Là.
Hey, Silverstone, ça a quelqu'un solide, là.
Vous parlez de l'incident Max Lewis?
Oui.
Ah, vous parlez de la seule fois que Lewis a décidé qu'il ne laissait pas la place à Max cette fois-ci. Il dit « OK, c'est beau, tu veux y aller? » Ben là, je me tasse plus. C'est cette fois-là?
Ben, il a refait ça un peu, Lewis. Là, il s'est dit « Moi, je me laisse pas faire. » là. C'est ce qu'il a fait aussi.
Mais après, aujourd'hui?
Un petit peu.
Vous comprenez qu'on est rendu dans la discussion que c'est des chums qui s'ostinent sur la même
affaire. Oui, mais il faut que tu l'admettes aussi, là, Mané, Greg.
Que Max est bon.
Que c'était agressif, mais c'était dans il y a jurisprudence. C'est ça qui arrive.
Il y a jurisprudence, puisque la jurisprudence a été créée par ce pilote-là.
Hey non, ça fait longtemps que c'est de même, ta tête est de même.
Je fais des farces. Si vous ne regardez pas, vous voyez que j'ai un sourire au visage et que je fais juste ça pour ostiner mon chum Jean-Max. Mais tu sais, oui, ça reste dans la limite de la chose. Sinon, il y aurait une pénalité, c'est certain.
Ouais.
Puis écoute, le stint qu'il a fait, le fameux passage, ses derniers, il a fait un seul arrêt au puits, Max. Et ce qui est arrivé, la longueur qu'il a tenu ses pneus tendres, et qui était très compétitif, encore plus rapide que Charles à la fin. Je veux dire, ça, c'était du génie. Là. C'était tout simplement du génie. Là.
Il a gagné 11 secondes et demie.
Là, tu peux pas donner la raison de dire « Ouais, mais moi, mes pneus sont vieux parce que ses pneus sont aussi vieux à lui. » C'était ça, c'était du grand Max, du grand tort. Dans les autres courses, Gabriel Bortoleto.
Oui, absolument.
Il était très, très bon. T'es allé chercher un point aujourd'hui. Puis Stroll n'a pas été mauvais aujourd'hui.
Il n'a pas été mauvais.
On peut dire mauvais. Un moment donné, il a remonté quand même en 11e position, parti du 19e. Puis fini 14e quand même, Lance, avec 4 abandons. Pardon.
Stratégie.
Alonso peut terminer, donc on ne peut pas le... On peut pas le comparer.
On peut pas le comparer à ça. Mais il remontait sur Alonso, mais Alonso avait un problème, c'est certain,
mm-hmm.
sur sa voiture.
Exact.
Qui a fini par le faire abandonner.
Bortoleto domine Hulk depuis plusieurs courses.
Oui. Puis il y a eu un dépassement écœurant. J'ai pas d'autres mots. Là. Dans la course, là, il a été formidable, son dépassement.
Absolument. Il a eu la bonne stratégie. A fait sa course, a pas fait d'erreur. Et c'est ce que ça donne maintenant. Et dans la course des constructeurs, c'est un beau petit point pour eux, mais je me permets de revenir sur Haas.
Oui,
Ocon et Bearman, là, c'est un swing de, pardon...
16 points.
C'est 15-16 points.
14.
On passe devant...
Sauber,
justement.
Mm-hmm. Kick.
Pour être à 6 points, je pense, ça se peut-tu?
7.
7 de...
7 de Aston Martin, exact. Et 10 pardon, de Racing Bulls. Donc, ouais, voilà, là, on est rendu. C'est ça, Ferrari a repassé devant Mercedes par un point. Red Bull qui est à 10 points derrière tout ce beau monde-là.
Ouais.
C'est tellement serré.
Si Max avait moindrement un deuxième pilote avec lui dans l'écurie qui fait des points, là, Red Bull serait deuxième.
Là, Racing Bulls, on semble être dans un petit creux de vague là, en ce moment, ouais, avec eux autres. Là.
Ouais, c'était pas la piste pour eux tant que ça.
Lawson qui a abandonné après quelques tours seulement, puis Isaac Hadjar qui a terminé 13e. Là. Donc, tu sais, la fameuse rapidité qu'on avait semble plus être vraiment là en ce moment.
C'est parce que c'est un circuit qui demande beaucoup d'aérodynamisme et beaucoup de vitesse par moment. Donc, il faut que tu fasses un choix sur les ailerons. Est-ce que je mise sur mes ailerons plus d'aérodynamisme ou moins? Puis la Red Bull avait de la misère en qualif. Max disait que ça glissait partout. Plusieurs pilotes disaient que ça glissait partout. Donc, c'était pas optimal pour les Red Bull, en fait.
Les gars, c'est l'heure de notre segment. Tant attendu. Avant qu'on passe à l'entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt avec Mélanie Villeneuve. D'ailleurs, ça, c'était bien le fun de recevoir tout le monde ici qui sont venus regarder la course avec nous. Qui est le pilote? On va prendre notre invité d'honneur, François, exact, pour commencer. Le pilote qui avait du gaz en fin de semaine.
Qui a bien performé.
Ben, pour la fin de semaine ou pour la course?
La fin de semaine au complet.
Le mieux pour toi?
Ben, la fin de semaine. Ben, Norris, c'est sûr qu'il est...
C'est l'évidence.
L'avance de la pole a prouvé là, qu'il avait retrouvé ses pédales. Là.
Certainement.
J'y donnerais vraiment parce que c'est son tour en qualif qui a tout, ouais, changé et le départ. Voilà.
L'avance qu'il y avait aussi pendant la course.
20-quelques secondes.
Ben, il a fini à 29 20 secondes en avant. Là, il était formidable. Mais en tout cas, il était à 29 secondes pendant très longtemps.
Oui.
Puis, tu sais, oublions pas qu'on jasait de ça avant la course, puis on se disait, bon, c'est à quel moment que Lando va l'échapper dans le premier tour? Et il l'a jamais échappé, finalement. Il était très, très bon. John et Max, c'est mort?
Je pourrais dire Max, Bearman et Piastri facilement, mais je vais aller vers Charles Leclerc, le grand oublié. Il a fait les deuxièmes. Il s'est bien qualifié. Il s'est bien qualifié avec une Ferrari améliorée. Lewis disait, on commence à comprendre plus de choses. Bon départ, et resté là, et resté tight. Puis, il a résisté quand même, veut, veut pas, là, Charles. Ouais.
On est rendu à combien de podiums de Ferrari avec Charles?
C'est le septième. T'sais.
On attend celui d'Hamilton, toujours?
Ben, il aurait été aujourd'hui.
Ah!
Puis là, on est rendu quoi? C'est sa 20e course sans podium? Nouveau record?
Ah,
oui, mais c'était la 19e saison dans laquelle il partait en qualification dans le top 3.
C'est un record?
Ça bat le propre record de Lewis Hamilton.
Ouais, c'est ça. C'est...
OK.
Les gars, je vais vous faire plaisir. Celui qui avait du gaz en fin de semaine, c'était Max Verstappen.
Oh, tabarouette!
Juste pour la dernière portion, puis il aurait fini deuxième. C'est, ouais, incroyable de partir 5, de finir 2 sur une stratégie d'un arrêt au puits et de finir ça avec des gum-towns, puis être aussi rapide que ça. C'était... incroyable. Maintenant, qui dormait au gaz, selon vous, en fin de semaine?
François.
Écoute, il faudrait savoir, il est où vraiment le problème avec Piastri? C'est-tu la voiture? C'est-tu son manque de confiance? Je ne sais pas, mais le plus décevant du week-end, c'est encore Piastri. Parce qu'il ne s'attend pas à le voir là du tout, là.
Oui, quand même, c'est pas un circuit pour lui. Lui, il est meilleur dans les longs virages rapides où il pousse la voiture à la force G extrême. Mm-hmm. Puis Lando est très fort quand il y a au niveau aérodynamiste, des virages plus lents. Mais t'as raison qu'il y a de la misère, puis on dirait qu'il perd la guerre mentale.
Mm-hmm. Il aurait fini quatrième pareil.
Quand on commence à parler, est-ce que c'est le châssis le problème? Est-ce qu'il faudrait changer de châssis? Vous connaissez l'histoire avec Prost et Mansell?
Ouais, là, on... Je vais attendre d'avoir des détails avant de me prononcer sur comment ça se fait que tout d'un coup, Oscar est beaucoup moins rapide.
Ben, écoute, on a déjà vu ça, un châssis qui était qui avait un problème, qui était fricturé, qui est cassé. Mais aujourd'hui, en 2025, il me semble que tu le découvres facilement. Là.
Effectivement. Mais tout est dans la mesure du possible en Formule 1, c'est le aussi. On ne le sait pas.
Oui. Je ne sais même pas qui dire, les gars, honnêtement.
Moi, comme me l'a rappelé tantôt François, tu sais, t'es arrivé quelque chose vendredi dans le week-end dans lequel ils ont assis une recrue dans la voiture de Max.
Mmh. Oui.
Et cette recrue-là a battu Yuki Tsunoda.
Mmh. Ah. Oui. Fait que tu y vas encore avec Yuki, quoi.
Ben, c'est rare, j'y donne, moi, Yuki. J'ai comme jamais le temps parce que vous autres, vous
le problème, c'est que c'est pas Yuki. C'est n'importe quel numéro 2 chez Red Bull ne peut pas faire performer par rapport à Max.
Ben là, c'est pas par rapport à Max, là. C'est par rapport à une recrue qui
Avec la voiture
Blatt
de Max.
Qui arrive là, puis qui. Là,
si
qui
on voulait vraiment comparer, il faudrait mettre Yuki dans la voiture de Max, là. Parce que qui a pu rouler dans la voiture de Max depuis plusieurs années?
Mais quand même.
C'est pas mal le seul.
Ferrari, Cuoco.
On n'a pas d'autre châssis.
Cuoco.
Faut pas que tu le scratches.
Ah oui, c'est ça.
C'est quoi le nom?
C'est la pression.
Il ne scratche rien, mon homme.
Non, c'est pas comme Anthony l'a passé.
Il a toujours bien fini. Il a toujours bien fini 20e dans séance de célib, dans la voiture de Lewis. Je veux dire, à un moment donné, je comprends qu'il y a du talent, il y a une blade, mais bref. Ça pour dire que
mais
Yuki, pour moi, a été...
Je veux dire...
sa confiance à Yuki.
Ah. Hein? Je veux dire George Russell. George Russell, Antonelli a profité du départ pour le dépasser. Puis bien que George avait peut-être raison, qu'il était plus rapide qu'Antonelli, il a chialé, il a été Queen George, comme d'habitude.
Oui.
Alors, je lui donne sans hésiter.
Messieurs, merci beaucoup. Et à celui que Mélanie a qualifié de brillant, le brillant de l'équipe, Hugo Reich, qui est aux consoles, aux tables tournantes.
Ça vous autres, les gars, c'était bien le fun.
Oui, et on reprend ça. En fait, on n'enregistrera pas d'épisode sur place, mais on va être aux Trois Brasseurs avec toi, Frank.
Absolument.
Le 9 novembre prochain pour le Grand Prix du Brésil, avec toute la gang. Mélanie Villeneuve, Dirty Devil Vodka. Jean-Max va venir. Hein, tu vas
yes,
venir.
Sir. Trois Brasseurs de Laval pour regarder le Grand Prix.
C'est le pont. Jean-Max est en mission, qui sera là le 9 novembre.
Le petit stationnement, il n'y en a pas à peu près.
Oui, ça, c'est magnifique.
Alors qu'ici, c'est pas facile.
Ah, puis c'est sûr que j'ai un ticket. Good.
Il aura un rendez-vous également. Cela étant dit, on passe tout de suite. Merci, François, de t'être prêté au jeu. On vous souhaite... Ben, en fait, on s'en va à Mélanie Villeneuve, mais on vous souhaite une très belle semaine, un beau 2 semaines. Puis, on se revoit soit aux Trois Brasseurs de Laval ou bien, écoute, on lit vos commentaires puis on a hâte de vous jaser dans 2 semaines. Où est-ce qu'on revient? Viendra en studio enregistrer notre épisode. Salut tout le monde.
Ciao!
Est-ce que, comme tous les directeurs d'écurie, vous voyagez partout dans le monde, mais vous voulez être confortable dans votre espace de bureau? Eh bien, Amster, c'est votre place pour tout ce qui est mobilité, mobile, équipement de bureau. C'est 100% canadien. Avec plus de 20 000 produits en stock et près de 500 000 produits chez nos fournisseurs, Amster est capable de livrer partout au Canada, que ce soit de Vancouver à Montréal, Montréal à Vancouver, Halifax à Calgary. Amster est la place pour vous. C'est plus que des papiers et des crayons parce que c'est tous des services techno, mobilité. Il y a aménagement, clé en main aussi. C'est incroyable, Amster. Ça vaut la peine et on remercie beaucoup Amster d'être un fier partenaire du podcast L'Épingle.
Alors, comme vous avez entendu dans la première portion de l'émission, on est au Fitzroy en direct ici pour le Grand Prix du Mexique. C'est bien le fun. Les gens commencent à arriver, mais avant la course, on a une invitée très spéciale pour qui on a décidé de sortir. C'est la première fois qu'on sort le podcast et on le fait pour Mélanie Villeneuve, une invitée de marque. Là, tu nous fais sortir pour la première fois, Mélanie.
Quelque chose, là!
Tu nous sors de notre studio, là. On n'a jamais fait ça. Comment vas-tu?
Ça va super bien. Merci d'ailleurs. Merci de m'accueillir.
Ben merci à toi. On est super contents que tu sois là. Là, les gens savent t'es qui, mais mettons en contexte pourquoi on est ici. J'en ai parlé longuement plusieurs fois dans le podcast. Tu as décidé un projet sur lequel tu travailles depuis plusieurs années, qui est de lancer la marque Gilles Villeneuve, faire revivre ton père, Gilles. Vous avez des belles casquettes, Jean-Max et toi d'ailleurs.
Non.
Et ouais, comment ça se passe, ce lancement-là?
Ça va super bien. D'ailleurs, ben, c'est là qu'on s'est rencontrés. Parce que oui. Vous êtes venu au lancement. Et puis écoute, on a travaillé fort pour bien, si tu veux, structurer ce qu'on est en train de faire. Donc, on a bien, on a travaillé avec Sylvie pour dessiner la marque, quelque chose de simple et qui en fait parle de Gilles parce que c'est basé sur le dessin de son casque. Puis par la suite, bon, on a fait une collection. Je pense que tu portes d'ailleurs un très très beau t-shirt.
Contrairement à Jean-Max, moi je le porte du bon sens.
Toi, tu le portes à l'endroit, toi tu le portes à l'envers.
Je voulais qu'on le voit, ce beau Gilles, avec le casque et tout, dans le feu de l'action.
Les chandails sont magnifiques.
Ouais. Sont vraiment beaux, c'est super belle qualité. Puis ben, ça m'a permis de rencontrer en fait plein de monde parce qu'on s'est activé tout au long du mois d'août. On était à Trois-Rivières, on était à Icar, on est allé à Mossport. Et puis rencontrer sur le terrain du monde, puis leur parler. Puis la réaction est vraiment superbe. Les gens sont vraiment contents. Ça me remercie d'avoir commencé cette initiative parce que je parle de Gilles et pour eux, c'est une fierté. Puis ben, pour moi, ben, ça donne l'opportunité, de, si tu veux, de me remettre en contact avec mon père. Fait que c'est bien, c'est super.
As-tu une question, Jean-Max, avant?
Non, mais j'allais dire, c'est grâce à Gilles, si à Montréal, c'est comme un hub, excusez-moi en anglais, là, dans l'année, dans le monde, Montréal, c'est une ville de course. Tu sais que c'est une ville de hockey, mais c'est une ville de course aussi, puis c'est grâce à lui, évidemment, le circuit qui porte son nom. Tous les pilotes aiment venir, toutes les équipes, toutes les écuries, les stars, ils viennent. Ça va, Montréal, c'est une ville de fun, donc les gens se déplacent pour venir nous voir. Grâce à lui. Puis on est là jusqu'en 2031, heureusement.
Oui,
c'est vraiment formidable.
Je suis super contente de voir ça. Faut aussi
2035.
Oh oui, c'est vrai. Oui, c'est ça vrai. A été re-extensionné. Ah oh, yes! Fait que j'ai mes billets, je suis pas encore 10 ans. Parfait.
Non, mais ce qui est cool avec Montréal, c'est parce que c'est un circuit qui est à côté d'une ville, puis c'est une ville de party. Puis c'est une ville que même les Américains du coin de New York, puis tout ça, ils aiment ça venir à Montréal. Même les Ontariens, les gens de Toronto ou même les gens d'Ottawa aiment ça venir à Montréal parce que c'est une ville de party, mais c'est une ville de fun. Puis c'est rare qu'on va trouver un circuit proche d'une ville. Et il y en a beaucoup des circuits qui sont comme 45 minutes ou à une heure d'une ville. Puis Montréal se distingue de cette façon-là. Puis oui, effectivement, les pilotes, les équipes, les écuries aiment ça venir ici. Puis c'est une belle expérience, c'est le fun.
Ben effectivement, tu l'as dit, puis il y a des circuits qui sont vraiment difficiles à entrer et sortir également, qui sont plus loin. Donc, c'est le fun, surtout cette année, comment on l'a amélioré, la mobilité pour aller et rentrer et sortir du site. Ça fait plusieurs années que tu travailles sur ce projet-là. C'est parti de où exactement ce sentiment-là de vouloir? Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as voulu faire ou à un certain moment donné, il y a eu comme des signes qui ont été envoyés de vouloir lancer cette marque-là, de faire revivre la carrière de Gilles et ce qu'il nous a laissé?
Ben en fait, c'est un cheminement personnel. Il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai fait une petite analyse de ce qui se passait autour de moi pour voir que finalement, nous, la famille, on n'avait pas nécessairement mis une structure en dessous de la marque. Et puis voir l'essor de Ayrton Senna ou en fait principalement Ayrton Senna, comment il est extrêmement bien géré et comment le fait de cette gestion fait en sorte que il rayonne encore plus et pour plus longtemps et je me suis dit pourquoi nous on n'a pas mis ça en place et c'est peut-être le temps qu'on le fasse et Gilles d'une certaine manière il est devenu une légende pas par la force ou la brillance de la gestion en dessous parce qu'il est devenu comme ça juste par la force de son histoire.
Ouais.
Et donc, c'est un récit incroyable et ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Mais maintenant, ce qui est la difficulté, c'est de mettre la structure en dessous parce qu'elle n'a pas été là avant. Donc, okay. Ça a été ça mon cheminement, c'est ça ma mission, puis c'est là-dessus qu'on travaille.
Est-ce que tu as appris beaucoup de choses sur Gilles aussi? Parce que des fois, comme enfant, tu vas nous raconter tantôt comment tu as vécu ça, puis les courses de Formule 1 et tout le reste, mais d'apprendre par des peut-être des anciens collègues ou d'autres fans ou des histoires qu'on t'a racontées?
Oui, tout à fait. C'est parce que si tu m'avais posé une question, j'ai fait une entrevue à un moment donné en 2012, et puis on m'a posé des questions sur Gilles et... J'avais des bribes de mémoire, de souvenirs, d'identification, mais c'était loin et je pense qu'une des raisons, c'est parce que, comment je peux dire, c'est pas facile de vivre la mort d'un proche et surtout quand on est jeune Et puis les souvenirs sont un petit peu mis de côté, un petit peu pour la protection et la survie du petit enfant. Et donc, c'est pas nécessairement des souvenirs qui sont très accessibles ou facilement accessibles. Donc, il y a tout un démarchage à faire pour que je puisse y arriver. Et avant que je me replonge dans Gilles, c'était flou, c'était à l'extérieur. Et puis, maintenant que je fais le démarchage et que je fais la recherche, je me sens de plus en plus proche de Gilles. Je suis de plus en plus proche de mes souvenirs et je l'identifie beaucoup plus.
Wow.
Pour moi, c'est tout une bonté. D'avoir fait ce cheminement-là.
Ben, certainement.
Ça a un double usage, en fait. Tu sais, on fait revivre Gilles et c'est comme un chemin que toi, tu peux parcourir aussi plus intimement. Puis,
ouais,
c'est fantastique. Là,
je le découvre, en fait. Parce que rencontrer du monde qui l'ont connu, là, j'ai renoué avec toute sa gang de grands chums à Berthier depuis quelques années, puis 2-3 ans. Puis c'était des gens qui étaient proches de nous quand on était jeunes. Puis, mais ça fait des années que j'ai pas entendu leur histoire. Et leur témoignage, en fait, vient mettre de l'information dans des endroits où j'ai peut-être des trous dans ma tête, dans mes souvenirs. Fait que là, je suis en train comme de monter un puzzle ou remonter l'architecture de qui il était, puis qui il était pour moi, puis c'était quoi ses forces, puis il était bon là, puis là, il était moins bon là. Puis j'essaie de le figurer, puis plus j'avance, mieux je le connais.
Puis ça doit être un bel honneur également de voir qu'il y a autant de gens qui, encore aujourd'hui, admirent Gilles Villeneuve, vont en parler. Jean-Max est allé dans des cafés en Italie, puis tu vois, on en parlait ensemble. Là, il y a encore des affiches, puis tu dis le nom, tu dis que tu viens de Montréal, puis les gens vont s'en rappeler. Ça doit être un bel honneur de vivre ça également aussi.
Oui, tout à fait. Puis c'est un petit peu surprenant même, voir à quel point il a touché les gens. Et qu'on me dit c'est un homme accessible. Et puis, on le sait quand c'est des pilotes ou des grandes stars de n'importe quoi, hockey, n'importe quoi d'autre. À un moment donné, il y a tellement de monde qui gravite autour de ces gens-là qu'ils ont une tendance peut-être à se distancer et d'être plus difficile d'accès. Évidemment, ça peut être un petit peu compréhensible, mais Gilles ne l'avait pas, ça. Il restait très accessible aux gens, aux journalistes, au peuple, aux gens qui voulaient juste avoir une signature, un autographe. Il restait disponible. Et je pense qu'il est resté, à quelque part, c'est peut-être son parcours qui a fait en sorte qu'il était comme ça, parce qu'il est parti vraiment de rien. Et il s'est battu, vraiment battu, par amour pour le sport. Et puis c'est ça, moi, je trouve ça super, tu sais.
Ben non, mais c'est sûr, effectivement.
Qu'il soit avec Ferrari, tu sais, c'est quand même iconique. Et j'ai lu quelque part que la famille Ferrari le considérait comme un membre de la famille. Et Enzo, je ne sais pas si je me trompe, mais Enzo Ferrari disait que c'était comme un fils pour moi. T'es comme, tabarouette. C'est comme, OK, ça niaise pas, là. C'est quand même fou.
Mais quand tu y penses, M. Enzo, quand il a décidé de prendre Gilles pour remplacer Niki Lauda, il s'est fait poser des questions. À quelque part, pourquoi tu fais ça? Gilles, c'était relativement un inconnu dans le monde de la fin. Il s'était fait connaître, il avait battu Jameson en 76. Jameson, tu avais eu beaucoup de choses à dire, des belles choses à dire sur lui. Il avait fait la course à Silverstone en 77. Bon, il avait quand même fait quelque chose, mais quand même, c'est une des plus grandes équipes qui décide d'aller sur un relatif inconnu qui était quand même âgé. Il avait quand même 27 ans. C'était pas un petit jeune sur lequel tu mises.
Ouais.
Fait qu'il avait fait un leap of faith, si je peux dire. Puis en fait, le destin lui a donné raison, quelque part. Et oui, je pense que Gilles avait cette simplicité, puis c'est un gars qui travaille extrêmement fort, puis il était proche de l'équipe, puis il parlait au mécano, puis c'était peut-être un an ou deux que là, il commençait à parler italien, fait qu'il voulait se mêler à l'équipe, il était constamment dans les garages. Fait, je sais pas, à quelque part, cette honnêteté d'esprit a fait en sorte que Enzo l'a trouvé génial. Puis bon, il faut dire aussi qu'il était rapide. Fait, peut-être que ça fait...
Ça aide tout le temps. Oui, chez Ferrari, quand tu commences à être rapide, c'est pas mal le name of the game, comme on dit, et t'sais, remplacer un Niki Lauda qui était déjà un grand nom comme ça, puis qui avait... une personnalité peut-être aux antipodes de ce que Gilles et Gilles était, là, pour avoir lu, j'ai presque fini la biographie de Niki Lauda, mais je pense que c'est deux hommes que j'ai pas connus, on s'entend, mais qui avaient l'air assez différents aussi dans leur approche.
Oui, je pense que je connais pas nécessairement aussi tant que ça Lauda, mais je pense qu'il était connu pour être beaucoup plus comme un petit peu comme Prost, on va dire, là, très, très détaillé, mathématique almost. Puis Gilles, c'était...
L'instinct.
Fly, ouais, c'est ça, instinctif, fly on the limit, tester la limite. Puis Tu sais, il était spectaculaire quand il faisait ses quand il s'essayait puis qu'il figurait jusqu'où il pouvait aller. Puis bon, mais 78 a été une saison quand même assez assez flyée où il a fait quand même certaines erreurs pour apprendre. Puis il faut dire aussi que Enzo lui a donné la chance de pouvoir faire ça et de pas être... Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un comme ça dans sa position ferait l'année au complet.
On aime...
Les choses ont changé.
Oui. Je suis certain, les fans de Formule 1, globalement, aiment... les gars rapides, tu sais, les gars avec du cran, puis les pilotes instinctifs, tu sais, Senna était comme ça, ouais. Gilles était comme ça, Kimi Raikkonen aussi. Là, je pense que c'est Max qui est le grand descendant des pilotes ultra instinctifs et agressifs aussi, donc qui est adoré par sa base de partisans aussi.
Oui, mais ça, je sais pas, quelque part, ça vient toucher l'imaginaire, là. Tu sais, il faut être fougueux. Tu sais, cette fougue-là, me semble, elle attire le monde, elle attire l'attention. T'as envie d'être comme ça. Tu sais, moi aussi, j'aimerais être comme ça, tu sais, dans ma vie. Fait que, je sais pas, peut-être que c'est ça qui parle.
Mais toi aussi, on les admire pour... Tu sais, ils ont pas froid aux yeux, puis ils roulent à 300 dans des courbes. T'es comme... puis tu continues à le faire, puis let's go, là. C'est impressionnant comme sport.
Ça devient une habitude, par exemple. Quand tu commences à avoir l'habitude... tu sais, j'ai fait en 2004, j'ai fait du go-kart professionnel. J'ai fait 3-4 courses, là. Ça fait longtemps de ça. La première fois, je suis embarqué c'est un 4 temps. Ça fait 100 km/h. 100 km/h, c'est pas si vite que ça dans une voiture. Mais dans un go-kart, ça fly. Puis t'as l'impression de flyer.
T'es comme à 3 cm du sol, là. Tu te dis, OK, j'ai pas grand protection.
C'est ça. Mais c'est même pas le plus vite du go-kart. Mais c'est pas grave, tu vas vite. Et, mais tu sais, au bout d'une journée d'avoir fait ça, il me semble que ça va moins vite.
Oui, c'est ça. Fait que tu t'habitues.
Tu t'habitues, c'est ça.
Mais c'est ce que j'allais dire quand on a croisé Jacques ensemble au magasin que vous aviez fait dans le centre-ville. Il disait que t'es toute une pilote de course, toi aussi.
Il est fin. Il est fin.
Il est fin. Il est fin.
J'aurais aimé ça. Puis, mais bon, dans ce temps-là, c'était pas... je pense que si on avait été nés aujourd'hui, ça aurait été une autre paire de manches. Là, mais j'aurais aimé ça. T'sais, je pense qu'on l'a un petit peu dans le sang quelque part. Puis on vit entouré de ça. Fait que c'est naturel de vouloir faire ça, tu sais.
Puis ça a été comment de vivre ça, de revivre ça avec ton frère également? Tu sais, c'est rare qu'il y ait eu des duos père-fils, si on veut, en Formule 1, qui ont remporté des courses.
Il n'y en a pas tant que ça. Évidemment, tu as Keke Rosberg.
Oui.
Avec Nico.
Oui, qui eux, les deux, effectivement, champions du monde. C'est ça. Bon, le père de Max a couru en Formule 1, mais pas nécessairement connu de succès. Là.
C'est ça. Mais ça s'arrête là, je pense, en termes de... Non, t'as Graham Hill puis Damon Hill.
Ah oui, tout à fait.
Ça fait eux autres comme duo. Je pense qu'on s'arrête là.
C'est ça, il y en a beaucoup.
Mais tu sais, j'ai grandi avec Jacques, toujours en pensant que Jacques allait faire la course.
Ouais.
Jacques est...
Ah oui?
Oui, tout à fait. Il le savait depuis qu'il avait 3 ans.
Jacques. Tombé dans la passion quand il était petit. Là,
ah, c'est ça. Il ne s'est jamais posé la question. C'est tout... Mais il l'a dit lui-même. Il n'a jamais pensé à faire autre chose. Il n'a jamais pensé que c'était possible qu'il fasse autre chose.
Ah oui, hein? À 3 ans?
Oh, c'était 4 ans, 5 ans, c'est ça qu'il va faire. Puis c'était tout donné. Puis mon oncle a fait ça aussi. Fait que ça faisait partie de la lancée des gars dans ma famille. Là, fait que c'était comme normal qu'il fasse ça.
Puis de le voir monter comme ça jusqu'à... Tu sais, il a tellement marqué... moi, c'est comme ça que je suis tombé en amour avec la Formule 1.
Oui, hein?
Le chum de ma mère, à l'époque, qui se levait le matin et qui venait me réveiller, tu sais.
Oui,
on regarde la course quand Jacques est arrivé. Puis je veux dire, dès son arrivée, le Grand Prix d'Australie, le premier...
Ah, oui, c'était incroyable.
Wow, OK, attends une minute, là, c'est ça, incroyable. C'est...
Il aurait pu le gagner, je pense même, cette course-là. Mais il y a eu un parcours... des fois, on dit c'est comme... incroyable quand même. It was like gifted. L'univers, il a donné un gift. Il est arrivé en Atlantique City, il a fait une bonne année. Il est arrivé en Indy. Il a eu Rookie of the Year la première année. Après ça, la deuxième année, il gagne le championnat. Il gagne l'Indy 500. Oups, il s'en va chez Williams. Ça a été une montée fulgurante. Puis c'est tout à son honneur parce qu'il y avait beaucoup de pression. Puis certainement aussi en 97, la pression avec Schum pour le championnat, c'était toute une saison.
D'ailleurs, c'est
quand même fou.
À ce moment-ci, si je ne me trompe pas, là, on n'est pas dans les dates où ça a fait comme... C'était en octobre 97, là, à Jerez.
Oui, c'est ça, c'est Jerez. C'était un
ancien. Il me semble que j'ai vu ça passer, là, une espèce d'éphéméride comme ça. Là, on pourrait le regarder pour confirmer tout ça. Là. Au Hugo, notre encyclopédie, hier, c'était octobre 97, ça se peut-tu?
Oui.
C'est ça. Je t'avais dit que ça prenait un brillant dans l'équipe. Hein?
Il a dit, oui, c'est ça.
C'est que tu l'appelles, c'est cool.
Parle-nous maintenant de... Bon, là, on a acheté des T-shirts, Jean-Max et moi, les casquettes que vous portez, tout ça. Ça, c'est disponible sur Internet. Les gens peuvent s'en procurer. Mais quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on surveille maintenant qui s'en vient? Quand on a fait le lancement ensemble à la Place Ville-Marie, il y avait plein de choses dont une expérience multisensorielle qui s'en venait, là, et le film aussi.
Il y a le film qui recommence à tourner là maintenant, dans ces jours-ci. On en a pour 2-3 semaines de tournage et puis on s'attend à ce qu'il soit released à quelque part fin mai. Dans le coin du Grand Prix du Canada, on espère vraiment que ce soit à ce moment-là ou début juin, fait que ça va être dans ces eaux-là. Par la suite, par rapport à la collection, on est en train de dessiner un calendrier d'activation tout au long de 2026 et on veut se promener non seulement dans des événements de course, de motor racing, mais dans d'autres festivals pour se promener vraiment à la grandeur de la province pour qu'on puisse réintroduire Gilles et être proche du monde et donc pas juste sur le web. Et en même temps, on est en train de mettre en place aussi un calendrier d'événements, pas d'événements, mais de drops, comme on appelle ça, là, pour du contenu sur le web, les réseaux sociaux, etc. Mais là, ça prend un petit peu d'organisation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stocks en ligne sur Gilles, des archives. Mm-hmm. Et maintenant, c'est une question de les organiser. Puis quand tu les organises, d'avoir un récit qui se tient, qui fait du sens, et non pas juste garrocher de l'information un petit peu pêle-mêle, qu'on pourrait faire. Mais ce que j'aimerais, c'est vraiment dessiner quelque chose qui peut perdurer puis s'allonger avec le temps. Faire les choses correctement. Fait que on prend juste le temps pour faire ça. Fait que ça devrait sortir très bientôt du contenu. Et puis là, on espère être à quelque part dans une activation pop-up pour le temps de Noël. Puis en temps et lieu, on va annoncer où exactement. On n'est pas sûr exactement encore où. Mais
on est là. Jean-Max va être bien excité, c'est
sûr. On va faire des beaux cadeaux de Noël, tout ça aussi, là, cette belle marchandise-là. Oui. À nos pères surtout, mais à nos mères aussi. Il y a plein de femmes qui adorent la F1.
Ma mère est une grande fan de Gilles, ben oui.
Ben, ouais. D'un, puis surtout depuis Drive to Survive, là, ça fait quoi, 8 ans, 9 ans? Il y a il y a beaucoup de femmes fans maintenant de F1.
T'as raison.
Et au Québec, puis moi, je veux voir des femmes et des jeunes femmes avec la casquette et les t-shirts.
Ben oui.
Gilles Villeneuve, ça, c'est trippant. C'est vraiment trippant.
Écoute, je pense que j'avais lu une statistique à quelque part un moment donné que dans les nouvelles générations, les jeunes qui écoutaient Drive to Survive, je pense que c'est 50-50 hommes, filles.
Ah, c'est énorme.
On est dans ces eaux-là.
Hugo nous confirme ça.
C'est-tu ça?
Hugo nous confirme, c'est du 50-50. Là.
Je connais pas la stat par cœur.
C'est 47,76.
Mais je savais que c'était vraiment réparti. Là.
C'est bien, c'est ça.
C'est bien réparti. Je vais aller faire mes recherches, je reviens.
Madouce, qui est fan de Lewis comme moi, mais aussi de Carlos Sainz pour d'autres raisons évidentes. Si je peux y acheter peut-être une petite casquette de Gilles, ça va y enlever sa casquette Williams qu'elle aime tant de Carlos. Là.
Ils font bien cette année.
Oui, c'est vraiment surprenant. D'ailleurs, un Québécois qui fait partie des succès de Williams, Frédéric Brousseau, qui travaille comme CEO là-bas, là,
okay.
Qui a participé au développement. Mais oui, effectivement, pour moi, ça a été une des plus belles surprises de cette saison, Williams. Est-ce que ça te fait quelque chose de voir les écuries, par exemple, comme Ferrari? Es-tu toujours une fan de Ferrari? Veux-tu toujours prendre pour eux ou Williams encore?
C'est drôle, tu poses cette question parce que ça devrait être naturel que je te prenne pour Ferrari. Mais si on se remet juste un petit peu en arrière et on retourne dans les années 90, quand Jacques est arrivé en F1, est allé chez Williams, puis je pense que la même année, Schum arrivait chez Ferrari. Et donc... Oh, je me suis comme peut-être détachée de Ferrari.
Un peu, oui.
Que Williams.
C'est comme le
un peu détachée. Je ne sais pas pourquoi. Hein? C'est bon.
Parce que ça aurait été... imagine si Jacques serait allé chez Ferrari.
Oh boy, là.
En 96, qu'est-ce que ça leur aurait fait de avoir un Villeneuve chez Ferrari. Mais bon, il n'en reste pas moins que... pour moi, Ferrari reste... ça fait partie de Gilles. Fait que j'ai un petit quelque chose dans le cœur qui bat pour Ferrari.
Bien, c'est sûr et certain. Et un autre grand champion qui s'est joint à l'écurie cette année. On en parlait avant d'ouvrir les micros, mais tu disais que tu trouvais ça un petit peu, puis il y a beaucoup de gens qui sont pas encore habitués de voir Lewis Hamilton en rouge encore cette saison. Surtout que, bon, je pense qu'on peut dire que c'est une saison un peu mitigée pour Ferrari, là.
Oui, ben, je pense que je ne sais pas si Lewis a des nouvelles façons d'être, c'est une nouvelle équipe. Ça faisait longtemps qu'il avait été avec son équipe avant ça. Puis Ferrari est setupé un petit peu pour Charles Leclerc. Enfin, il faut qu'il se figure à l'intérieur. Peut-être que là, ça commence à prendre un petit peu plus d'aisance, être plus à l'aise. Mais écoute, j'en dirai pas plus parce que je ne suis pas. Je suis pas une experte en termes de...
Ben non, mais c'est important d'avoir ton sentiment d'observatrice quand même. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici ont le même sentiment de dire, ouf, Lewis en rouge, pas encore habitué. Là. On était tellement habitués de le voir dans ses couleurs, dans le argent ou le noir de Mercedes, qui d'ailleurs a été... C'est la nouvelle version de ce que ton frère a créé aussi.
Oui,
Mercedes. C'est le grand descendant de B.A.R.
De B.A.R., oui, wow. Tout à fait.
on va regarder la course ensemble. Oui. Mélanie, merci beaucoup.
Un plaisir.
On suit ça sur gilles-villeneuve.ca, c'est
oui.
ça?
Oui, et puis sur Instagram, GV27 Official. Gilles27 Official. Et si tu me poses la question, pourquoi Gilles27? C'était pour se distinguer de tous les sites Gilles Villeneuve qui existent déjà.
OK.
Parce qu'il y en a plein sur Instagram, il y en a plein sur Facebook. Et donc, avec Célie, on a décidé de se départir de ça, de s'appeler Gilles27 Official. Donc voilà, Gilles27 Official sur Facebook et Instagram.
On suit ça. Je suis certain qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui le suivent déjà, mais on vous invite certainement à aller le faire. Puis on va suivre ça, puis on attend les nouvelles. De toute façon, aussitôt que tu en as, tu nous le dis. Puis
c'est
on transmet le message à la gang.
C'est sûr.
Excellent. Merci, Mélanie.
Hey, merci.